Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir d'aller à la découverte d'une parution assez originale, à plus d'un titre, La stratégie du propriétaire, qui a comme originalité, la première, c'est son thème, puisqu'on parle assez souvent plutôt en mal des propriétaires, et ce livre a une tendance absolument inverse à montrer en quoi les propriétaires sont méritants et performants. Alors, deuxième originalité, c'est d'être une parution qui mêle à la fois à un bureau de, et parmi les plus importants de consultants, le Boston Consulting Group, qui croise son analyse avec le milieu universitaire et bien entendu parmi les principaux au plan national et international, puisqu'il s'agit tout simplement de l'École Polytechnique, d'HEC et, je l'ai dit tout à l'heure, donc du BCG. Troisième originalité, c'est que c'est un trio d'auteurs, Alain Bloch, Nicolas Cachaner et une dame, Sophie Mignon. Et je reçois donc, pour parler de ce livre, Monsieur Alain Bloch, qui est donc un auteur connu, docteur en gestion, professeur au CNAM. Vous dirigez le programme HEC Entrepreneur et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'innovation, l'entrepreneuriat. Et vous avez été vous-même entrepreneur, donc vous parlez de ce que vous connaissez. Vous êtes également président de chambre au tribunal de commerce de Paris. Bonjour Monsieur Bloch.
Bonjour Monsieur.
Un mot simplement pour présenter vos co-auteurs. Nicolas Cachaner est lui diplômé d'HEC, donc c'est pas une surprise. Il est donc consultant et notamment responsable du centre d'expertise stratégique pour le BCG en Europe et expert de référence sur les thèmes planning stratégique et nouveaux business models. Et puis donc, pour la parité, nous avons une dame, Madame Sophie Mignon, qui est un ENS Cachan, agrégé d'économie et gestion, docteur en sciences de gestion, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Donc, des gens qui sont à la fois expérimentés et avec des têtes bien faites. Alors, Monsieur Bloch, donc, le cœur de votre sujet, c'est de dire pourquoi, de lever le voile sur les capacités de performance de l'entreprise familiale. C'est une découverte que vous n'avez pas fait brusquement, tout seul dans votre coin. Comment vous est venue l'idée ?
Écoutez, il existait effectivement dans la littérature à la fois managériale et académique de gestion une controverse sur la performance des entreprises familiales. Certains articles prétendaient que les entreprises familiales étaient plus performantes que les autres et d'autres disaient le contraire. Donc nous sommes un peu partis de ça, partant du principe que démarche scientifique part toujours de controverses et nous avons essayé d'éclairer ce débat, de comprendre pourquoi il y avait effectivement des discours aussi différents et surtout, une fois que nous avons compris ou en tout cas donné un éclairage sur les raisons de cette controverse, nous avons essayé d'aller aux sources de cette performance supérieure des entreprises familiales puisque, en fait, ce que nous disons et ce que nous avons en tout cas démontré, c'est que les entreprises familiales étaient clairement plus performantes que les autres dans les périodes de crise. Elles résistent mieux à la crise et c'est la raison pour laquelle le sous-titre de notre ouvrage, cette enquête sur la résilience des entreprises familiales face à la crise, parce que en fonction de la période que l'on étudie pour regarder leur performance, ben effectivement on peut aboutir à des résultats différents selon qu'on inclut des périodes de crise ou non. Si on n'en inclut pas du tout, on risque de trouver, si par exemple on prend une période entre 2003 et 2007, on risque de trouver que les entreprises familiales ne sont pas plus performantes que les autres. Si au contraire on inclut les deux crises de 2002 et celle de 2008, alors là pour le coup on va effectivement découvrir qu'elles sont plus performantes. La réalité c'est qu'elles sont surtout plus performantes pendant ces périodes de crise, ce qui s'explique, enfin ce que nous essayons d'expliquer à travers ce livre, notamment à cause de leur comportement face aux risques.
Voilà, alors vous dites que la stratégie est dominante donc des entreprises de propriétaires, qui appartiennent à des propriétaires, c'est leur prudence et une logique de long terme. Et qui mérite donc sans doute plus d'attention et d'encouragement que de suspicions dont on trouve des traces à la fois dans les médias et dans les milieux peut-être plutôt mal informés.
Nous sommes restés encore un petit peu dans notre inconscient collectif, le pays des 200 familles, le célèbre slogan du Front populaire qui pointait du doigt l'influence politique des familles en affaires, comme disent nos amis canadiens, puisque c'est la terminologie qu'ils utilisent. Effectivement, on a plutôt tendance à montrer du doigt ces entreprises, alors qu'en réalité, nous le disons, elles sont largement, voire plus performantes que les autres. Vous le disiez, ce que nous caractérisons, c'est en fait que leur comportement résulte d'une mise en tension, de ce que nous appelons une mise en tension, de leur orientation entrepreneuriale, qui remonte souvent à leur origine, puisqu'elles ont toutes été évidemment fondées par un entrepreneur qui a transmis son entreprise. Donc une mise en tension de cette orientation entrepreneuriale et de leur stratégie de pérennité. Et c'est ça la grande originalité de ces entreprises, c'est qu'elles privilégient toujours la pérennité par rapport à leur performance immédiate. C'est-à-dire que quand elles ont des choix stratégiques à faire face aux risques, elles privilégient toujours la pérennité plutôt que la performance immédiate, ce qui effectivement correspond à cet horizon de long terme qu'on associe souvent effectivement aux entreprises familiales. Il y a une très belle phrase qu'on cite dans le livre de Christian Peugeot qui dit « Notre entreprise ne nous appartient pas, elle appartient déjà à la génération suivante ». C'est très caractéristique des entreprises familiales et ça leur donne effectivement un comportement assez différent face, je dirais, aux prises de risques. Et ce que nous avons étudié très spécifiquement, ce sont leurs comportements face à l'innovation, face aux acquisitions, face à l'internationalisation et face à la diversification qui sont finalement les quatre grands sujets dans les entreprises de prise de risque. Et nous montrons qu'elles ont un comportement finalement très homogène et un comportement qui s'explique parce qu'elles privilégient leur stratégie de pérennité et qui leur donne une meilleure résistance face aux crises. Pour prendre un exemple très simple, elles s'endettent par exemple nettement moins que les autres dans leur processus d'acquisition. Elles préfèrent des petites acquisitions proches de leur métier plutôt que des grandes acquisitions qu'elles sont quelquefois capables de faire, parce que toute règle souffre toujours son exception, mais elles ont ce comportement particulier qui leur donne assez naturellement, c'est assez intuitif, une meilleure résistance face à la crise.
Mais alors, il y a peut-être une autre face à ces éléments très très positifs, c'est que, et c'est souvent des reproches que nous faisons aux entreprises françaises, c'est est-ce que ce comportement de prudence n'explique pas que bon nombre d'entreprises françaises et donc familiales ont des tailles insuffisantes et une ouverture à l'international insuffisante et qu'elles sont peu rentables par rapport à la grande comparaison qui est d'actualité, par rapport à nos amis allemands. Alors, est-ce que vous y voyez un facteur, effectivement, en liaison avec ce que je viens de décrire ? Est-ce que cette situation est en train de changer ? Comment voyez-vous les choses ?
Alors, en fait, vous avez tout à fait raison de soulever ça parce que c'est un biais scientifique qu'on pourrait reprocher à notre livre, puisque nous avons étudié, nous, systématiquement, ne serait-ce que pour une question d'acquisition de données, nous avons étudié spécifiquement les grandes entreprises familiales cotées en bourse.
C'est ça.
Et donc, évidemment, ce sont celles qui, en principe...
Elles sont devenues les plus grandes.
Sont devenues les plus grandes, donc, évidemment...
Elles résistent à mon observation.
Elles résistent à votre observation et on pourrait dire qu'effectivement, il s'agit d'un biais, puisque, du coup, nous n'étudions pas... Et d'ailleurs, c'est important de le dire, nous n'avons pas vocation à défendre particulièrement cette forme de capitalisme familial. Ce que nous observons, c'est les raisons de la performance de ces grandes entreprises familiales. Pourquoi est-ce qu'elles réussissent ? Comment est-ce qu'elles réussissent ? Et pourquoi, dans certaines conditions, la crise, elles résistent mieux que les autres ? C'est ça qui nous intéresse, parce que ce que nous disons, c'est que c'est transposable à d'autres entreprises. Au fond, les entreprises familiales le font naturellement, c'est presque inscrit dans leur gène, dans leur ADN, mais c'est tout à fait transposable et nous disons dans le dernier chapitre de notre livre que nous citons deux exemples de grandes entreprises, Essilor et Nestlé, qui sont deux entreprises qui appliquent cette stratégie du propriétaire que nous essayons de décrypter et qui pour autant ne sont pas des entreprises familiales. Voilà, ça leur confère les mêmes caractéristiques que les entreprises que nous avons étudiées, c'est-à-dire une performance supérieure pendant les périodes de crise. Voilà. Donc au fond, ce que nous dégageons de cette étude, ce sont des outils, et c'est pour ça qu'on l'appelle la stratégie du propriétaire, parce qu'on pense qu'effectivement c'est une forme de stratégie générique que peuvent appliquer d'autres entreprises que des entreprises familiales, qui donne une meilleure résistance face à la crise à travers un comportement spécifique face à la prise de risque qui s'explique donc par cette mise en tension de l'orientation entrepreneuriale et de la stratégie de pérennité.
Alors, pour illustrer les leçons de la performance des grandes entreprises familiales, vous utilisez trois mots, vous pourrez peut-être le développer légèrement. Frugalité, ambidextrie, ce qui est d'ailleurs pas une formule qui est tout à fait habituelle, et fiabilité, là on connaît un peu plus. Alors c'est un commentaire sur ces trois chapeaux.
Oui, alors effectivement, ce sont trois cadres théoriques qui sont utilisés, l'un dans l'innovation, l'ambidextrie, c'est un cadre théorique qui a été mis au point par des chercheurs américains qui expliquent que certaines entreprises arrivent mieux que d'autres à réconcilier, au fond, l'exploitation, c'est-à-dire le quotidien, avec l'exploration. Donc, elles ont cette capacité qu'ils ont qualifiée d'ambidextre.
D'avoir deux mains droites.
Voilà, c'est ça. Elles arrivent à réconcilier les deux. Et effectivement, c'est très clairement le cas des entreprises familiales que nous avons étudiées. Elles sont aussi fiables. Alors, fiables, là aussi, c'est un cadre théorique qui est utilisé notamment dans ce qu'on appelle les organisations hautement fiables, c'est-à-dire celles qui tombent moins en panne que les autres, les centrales nucléaires, les organisations militaires comme les porte-avions, etc. Et alors, elles ont une particularité, les entreprises familiales, c'est qu'elles sont effectivement, entre guillemets, hautement fiables, mais elles le font avec frugalité. C'est-à-dire que souvent, la fiabilité dans ces organisations que j'ai évoquées correspond à de la redondance, à un certain nombre de dispositifs qui sont très coûteux, alors qu'elles savent être hautement fiables avec frugalité, c'est-à-dire avec ce souci justement du patrimoine finalement. Ces entreprises jouent avec l'argent de leurs propriétaires et comme le dit un chercheur que nous citons, évidemment, cet aspect des choses change tout.
Alors, vous terminez en conclusion. Je vais vous lire, parce que c'est très bien écrit. Vous avez une belle plume. Je ne sais pas lequel des trois a écrit. Donc, ça sera le secret que nos auditeurs découvriront.
Nous avons tous contribué. Mais j'ai peut-être contribué un petit peu plus que les autres.
J'ai cru comprendre, d'accord. En conclusion, la stratégie du propriétaire n'est pas réservée aux seules entreprises familiales. Premier point. Si celles-ci la mettent en œuvre pour, ainsi dire, intrinsèquement, d'autres, dont Nestlé ou Essilor, peuvent constituer des exemples, sont susceptibles de parvenir en respectant ces 10 commandements que nous avons rappelés en tête de ce chapitre. Alors j'invite donc nos auditeurs à les découvrir, n'ont pas levé le voile sur ces 10 commandements, donc à se procurer votre livre. Alors à la résilience dont nous avons démontré qu'elle caractérisait la performance résultant de sa mise en œuvre, et vous concluez de la façon suivante, la stratégie du propriétaire est ainsi une forme de retour aux sources d'un capitalisme vertueux. Aussi innovant que prudent, attentif aux hommes et à son environnement, conquérant sans démesure, à la fois frugal et fiable, entrepreneurial et fuyant les tentations spéculatives, nous espérons que ce livre contribuera à son succès. Je crois que vous avez tout résumé à travers, mais ça reste encore un long chemin à parcourir. Le capitalisme vertueux, capitalisme idéal, on y va, vous y pensez vraiment ?
Écoutez, vous savez, je crois que c'est un débat qui est très ancien. Balzac nous le rappelle. Lorsqu'il écrit effectivement César Birotteau, qu'il oppose à l'époque à la maison d'Unzingen, je crois que ce débat entre le capitalisme entrepreneurial vertueux, respect de ses engagements, et ce capitalisme spéculatif, qui est une tentation évidemment permanente, existe depuis quasiment l'origine du capitalisme à travers ces deux œuvres magistrales que je rappelais et que je cite souvent d'ailleurs à mes étudiants à HEC. Je crois que le débat est évidemment toujours très actuel et que le capitalisme familial, contrairement effectivement aux idées reçues, représente ce capitalisme patient, durable et plutôt vertueux.
Avec des cordes de rappel avec la réalité en quelque sorte, qui sont peut-être plus fortes que dans les entreprises différentes. Je cite aussi les commentaires qui sont faits sur cet ouvrage que je rappelle, La stratégie du propriétaire, enquête sur la résilience des entreprises familiales face à la crise et qui est donc paru chez Personne pour 182 pages et 19 euros. Notamment cette citation de Martin Bouygues, « Si la stratégie du propriétaire consiste à réussir à conjuguer orientation entrepreneuriale et prudence patrimoniale, je crois qu'elle devrait inspirer de nombreux dirigeants. » Et celle d'Olivier Dassault, « Les principes de la stratégie du propriétaire dessinent le profil d'un capitalisme patient, durable et responsable. » On va essayer de l'être. En tout cas, avec la lecture de votre ouvrage, on avancera à grands pas sur ce chemin vertueux. En tout cas, monsieur Alain Bloch, merci pour avoir pris sur votre temps pour présenter cet ouvrage à nos auditeurs. Je rappelle, La stratégie du propriétaire, enquête sur la résilience des entreprises familiales face à la crise. Merci à vous.
Merci beaucoup.